La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il me semble que les sciences sociales connaissent un état de crise depuis une vingtaine d'années. Nos disciplines font aujourd'hui l'expérience de plusieurs transformations qui sont liées entre elles tout en restant distinctes. L'occurrence simultanée de ces transformations rend le futur incertain de manière presque inquiétante. Tant de possibilités s'ouvrent à nous qu'il nous faut faire des choix judicieux, de crainte que le hasard et l'histoire nous privent de ces choix et que l'habitus intellectuel qui nous anime disparaisse d'ici les 30 prochaines années. Voilà comment Andrew Abbott a choisi d'ouvrir la conférence Marc Bloch cette semaine dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Andrew Abbott, professeur de sociologie à Chicago, est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Andrew Abbott, bonjour. Je le disais, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Chicago, université célèbre pour son département de sociologie depuis plus d'un siècle, et département de sociologie que vous avez un temps dirigé. Vous êtes depuis 15 ans le directeur de la revue la plus célèbre de la discipline, American Journal of Sociology, et l'on vous doit des travaux notamment sur la sociologie des professions, mais également des articles importants sur la méthode sociologique, et puis une réflexion sur les disciplines, sur le travail sociologique. Et c'est de ça dont vous avez parlé dans cette conférence Marc Bloch, en ayant pour horizon l'avenir des sciences sociales, avec une réflexion pessimiste d'une certaine façon sur cet avenir que vous qualifiez immédiatement d'inquiétant. Alors on va évidemment revenir sur ce que vous avez dit durant cette 37e conférence Marc Bloch, mais vous avez commencé par pointer un certain nombre de transformations qui sont en cours actuellement et qui, d'une certaine façon, menacent ou bousculent les sciences sociales. Vous avez choisi dans cette conférence de n'en traiter qu'une des quatre, mais j'aimerais, avant qu'on vienne à cette quatrième dimension, que vous évoquiez quand même, ici à France Culture, les autres transformations. D'abord, vous parlez d'un problème lié à l'irruption de nouvelles formes de management dans l'université, le management néolibéral. Ensuite, vous pointez qu'il y a l'émergence d'un modèle unique et standardisé du savoir, le savoir scientifique. Enfin, une transformation plus structurelle, elle, concerne, et qui ne concerne pas que les sciences sociales, concerne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans lequel l'imprimé a été, écrivez-vous, presque supplanté par l'image, les symboles discursifs par les symboles immédiatement perceptibles et la complexité de l'argumentation par des assertions schématiques. Voilà une lucidité inquiétante, en effet. Si on les reprend dans l'ordre, qu'en est-il de ce management néolibéral et quels impacts, quelles incidences a-t-il sur la manière de faire de la sociologie, tout simplement, Andrew Abbott?
Tout d'abord, je voudrais m'excuser, je m'exprimerai en anglais.
Je
devrais réfléchir à trouver mes mots en français. C'est pourquoi je préfère m'exprimer en anglais.
Pour commencer, pour reprendre
cette idée de management néolibéral,
les
gens qui gèrent les universités, qui les administrent, sont beaucoup moins engagés dans la vie intellectuelle qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et il me semble
qu'il
y a ce que l'on fait, on compte les points, voyez, on appelle ça en anglais bean counting, mais on peut parler de compter les points. Alors, ils encouragent les gens à produire, à écrire des articles chaque fois plus, de plus en plus fin, à chercher vraiment la petite bête. Ce qui veut dire qu'on pousse les professeurs à publier beaucoup d'articles qui, au fond, n'ont aucun sens, qui ne veulent rien dire. Et le résultat est le suivant, c'est-à-dire que non seulement les gens perdent beaucoup de temps à écrire ces articles, qui dans le fond ne veulent rien dire, mais aussi cela en fait retient ceux qui peuvent lire ces articles et qui peuvent s'intéresser à ce qui est produit à être complètement ensevelis sous cette masse. Et cela, ce système de publication est devenu en fait un système d'évaluation de la production. Donc mon journal en fait, au final, final prend des décisions qui permettront à promouvoir, à faire avancer la carrière de quelqu'un en sociologie, alors qu'il devrait vraiment développer un contenu intellectuel qui nous permettrait d'avancer dans notre domaine. Donc, c'est-à-dire que ce système de communication dans les disciplines est quelque chose qui est en train de tout rompre, et ça ne s'attache pas seulement à la sociologie. Je pense qu'on retrouve ça dans toutes les disciplines qu'on retrouve à l'université, que ce soit les sciences ou d'autres disciplines. Il y a une explosion de cette communication. Nous sommes envahis, nous débordons. Et puis, si nous voulons vraiment que le système avance, il faut arrêter cette invasion de publications.
Deuxième transformation importante, celle qui concerne le savoir et le fait que désormais un mode de savoir est privilégié, celui qu'on peut qualifier du savoir scientifique. Et en quoi cela pose un problème aux sciences sociales, Andrew Abbott?
C'est un problème pour les sciences sociales parce qu'elles sont en marge, vous voyez, juste au bord. Elles sont entre les sciences naturelles et les lettres. Et c'est un concept qu'on retrouve depuis très longtemps, depuis Strad en Allemagne. Donc, c'est une méthode de conflit. Donc, les sciences sociales essaient de voir de la grille ou de rester sur cette petite marge aussi longtemps que possible sans ne tomber dans l'un ou dans l'autre des domaines. Il y a donc maintenant une volonté avec ce système de publication, d'avoir des documents faciles à évaluer. Comme je vous dis, nous sommes envahis d'articles, je le disais précédemment. Donc, il faut avoir une manière ou une méthode rapide pour pouvoir juger un article rapidement. Et ceci nous mène finalement à utiliser des méthodes scientifiques, parce qu'elles sont beaucoup plus simples à appliquer et nous permettent d'avoir un jugement extrêmement rapide. Donc, nous prenons un échantillon. Dans cet échantillon, par exemple, est-ce qu'il y a suffisamment de statistiques? Est-ce que les choses ont été bien réalisées, bien menées, bien ficelées? Et donc, c'est très simple, par exemple, pour un article scientifique. Mais des articles qui portent sur des sujets comme les sciences sociales sont beaucoup plus difficiles à juger. Est-il bon? Est-il mauvais? C'est un jugement qui ne s'applique pas. Et cela prend beaucoup de temps, donc, puisqu'on doit savoir s'il est bon ou pas. Donc, on n'arrive pas à prendre des décisions dans un laps de temps beaucoup plus court. Et au final, cela a des répercussions sur l'ensemble du système académique. C'est-à-dire que l'on se tourne plus vers des méthodes scientifiques plus faciles à juger, à évaluer. C'est vrai dans le monde scientifique, mais c'est aussi lorsqu'on va devoir choisir à qui l'on va remettre une bourse, qui va être le prochain professeur pour une chaire. Voilà, donc ça s'applique un peu partout.
On voit bien comment ces deux transformations distinctes peuvent se combiner aussi pour produire des effets encore plus sévères sur les sciences sociales. Il y a une troisième transformation que vous avez mentionnée simplement dans cette conférence. C'est celle qui a trait finalement à ce que certains osent même qualifier de révolution liée en particulier aux technologies numériques et qui font que la place de l'imprimé, la place de l'écrit cède le pas face à l'image et peut-être aussi aux symboles, aux raccourcis, et que du coup les manières d'écrire ou les manières de lire ont été affectées profondément. Et là encore, les sciences sociales se trouvent en première ligne affectées par cette transformation, Andrew Abbott.
Il y a plusieurs éléments à ce problème, plusieurs volets. Le premier, il est très facile de l'aborder. C'est ce que je vous disais, par exemple, c'est les sciences qui s'appliquaient aux sciences, dont j'ai juste parlé. Ce qui se passe dans ces différentes disciplines de sciences sociales, c'est que l'on s'aperçoit que l'on apparaît la big data, vous savez, de nombreuses données qui ne sont pas de telle manière qu'on ne peut pas les analyser, difficile de les utiliser. Donc, il faut trouver de nouvelles méthodes qui nous permettraient de les analyser. Et nombre de ces méthodes passent par une visualisation. Donc, il devient de plus en plus commun de passer à des regroupements, à une mise à l'échelle, des illustrations, des images. Et on utilise cela pour mener à bien une analyse. Le problème du point de vue intellectuel, c'est que lorsque que vous passez par cela, évidemment, les yeux réussissent à trouver des modèles et même des différentes images, même si ces modèles n'existaient pas. Ils n'existent pas. Et donc, on peut retrouver des modèles alors qu'ils n'en existent pas forcément et que tout a été mis au hasard au départ. Une des choses donc, que l'on aperçoit dès lors, c'est qu'il y a un mouvement de nouvelles données qui sont introduites dans les sciences sociales et ceci nous mène vers la visualisation. Mais à une échelle beaucoup plus importante, c'est que les différents étudiants qui viennent assister à nos cours utilisent Internet. Et ils ont utilisé Internet avant de venir à l'université, avant d'aller dans l'école élémentaire. Donc, bien avant de lire, ils étaient exposés à l'Internet. Ils n'ont donc pas du tout la même expérience face aux textes écrits, face aux médias que, par exemple, nous avions, nous, dans notre génération. Lorsque nous arrivions à l'école, nous n'avions pas du tout la même façon d'appréhender les choses. Et vous pouvez le voir, ils n'ont pas du tout la même manière d'apprendre. C'est-à-dire que nous avons appris à lire en lisant des textes extrêmement compliqués. Il devient donc d'autant plus difficile pour eux de produire ces textes très compliqués, de passer par une argumentation très articulée, très profonde. Donc, ils ont une façon très visuelle de montrer les choses, donc une image très rapide, facile de comprendre. C'est un changement qui est très généralisé dans notre civilisation. Cela a commencé normalement avec les journaux au XXe siècle. Donc c'est un mouvement qui a toujours été en cours. Et c'est vrai qu'avec les ordinateurs après dans l'avancée du XXe siècle, et c'est vrai que sur les 15 ou 20 dernières années, ce mouvement s'est accéléré. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas corriger cela. Mais je crois qu'il faut que les gens suivent un enseignement tout à fait spécifique pour pouvoir développer un argumentaire beaucoup plus compliqué, qu'ils puissent se plonger dans des textes beaucoup plus compliqués avec des raisonnements, des arguments très précis et très compliqués à développer.
Voilà, alors on a le management néolibéral, le savoir scientifique comme horizon ultime du savoir, et puis ce dont vous venez de parler à l'instant, ces transformations qui affectent nos manières d'écrire, de lire, avec cette révolution technologique en partie, mais qui est d'abord celle des usages de ces technologies. Mais vous avez choisi pour cette conférence, Marc Bloch, de vous arrêter sur une quatrième transformation, sur une quatrième manière pour les sciences sociales d'être mise au fond en danger et qui les concerne cette fois plus spécifiquement que les trois transformations dont nous venons de parler, puisque au fond c'est le projet même des sciences sociales que vous avez choisi d'interroger, son projet historique, en pointant ce qui vous semble une réalité qui s'installe déjà au fond peut-être même depuis toujours, depuis l'origine, à savoir une divergence progressive entre ce qui relève du travail empirique des sciences sociales d'un côté, et puis le travail théorique que par ailleurs les sciences sociales proposent. Une divergence qui se traduit au fond entre une tension de plus en plus grande entre le normatif et l'empirique, en quelque sorte, Andrew Abbott. Peut-être vous pourriez préciser ce que vous entendez d'une part par empirique et d'autre part par normatif, de façon à ce que l'on avance sur cette voie.
So we should start then with the notion that
there are empirical things in the world. Il faut donc voir deux notions. Donc il y a des choses empiriques et normatives. Empiriques, ce sont les choses que l'on juge à travers un critère qui est vrai ou faux. Normatives choses sont jugées également selon un critère de bon ou mauvais. L'objectif des sciences sociales, c'est qu'elles ont toujours fait ces deux choses, ont mené ces deux expériences à bien. Et pourquoi ? Parce que les sciences sociales, d'une certaine façon, ont été lancées pour comprendre l'État, comprendre les citoyens, les gens qui appartiennent à cet État. Qu'allons-nous faire de ces citoyens ? Qu'allons-nous faire de ces gens ? Comment empêcher que de mauvaises choses arrivent à ces gens-là ? Et donc, comme les sciences sociales étudient l'être humain et que l'être humain est celui qui mène en fait les relations humaines, et bien évidemment, nous avons des jugements qui vont être empiriques et normatifs. objectif. Notre vie est une vie qui implique des jugements et qui nous amène à dire si quelque chose est bon ou mauvais. Le problème, donc, avec les sciences sociales est de voir comment trouver le lien entre le côté empirique et le côté normatif. La moitié du 19e siècle, en tout cas aux États-Unis, il y avait cette tendance dans les sciences sociales à penser que les sciences sociales n'étaient qu'empiriques et qu'il n'y avait absolument pas de contenu normatif. Ce n'était pas le cas en France, en tout cas pas à ce point-là, parce qu'en France, les gens qui s'intéressaient à la sociologie avaient toujours cette conscience forte que la discipline était extrêmement normative. Les quelques qui, comme Raymond Boudron, qui n'étaient pas proches de cette théorie. À la moitié du XXe siècle, on a essayé de trouver une différenciation de ces deux concepts. Et puis, dans les 60, il y a eu une invasion de ces gens qui étaient très lancés dans les causes sociales, par exemple les causes des femmes, la cause des Noirs, la cause des gens âgés, enfin qui défendaient en fait des différentes groupes de gens. Et les sciences sociales défendaient en fait des générations. Et elles ont utilisé la science sociale pour pouvoir amener des changements sociaux dans la société. Et également, ils ont vu qu'ils pouvaient donc mener cette étude normative à travers un calendrier ou une façon de gérer les choses de façon empirique. Donc, on a commencé à étudier le concept d'inégalité et en se disant que ce n'était pas simplement un concept normatif. Et dès lors qu'on dit le moment qu'on dit que les gens ne sont pas égaux, c'est un jugement normatif et non plus empirique. Et donc, par exemple, il ne fallait pas utiliser injustice, mais inégalité. Et en utilisant le mot inégalité dans les articles de sociologie, vous étiez quelqu'un qui était en train de présenter quelque chose très clairement, tout à fait dans les normes, alors que ce que vous faisiez était complètement normatif. Mon idée dans la conférence Marc-Bloch était vraiment de différencier le travail que nous faisons. Est-ce qu'il est empirique? Est-ce qu'il est normatif? Si nous menons à bien un travail normatif, et je pense que c'est le cas, que nous sommes toujours en train de mener un travail normatif, quelle que soit l'ampleur, quel que soit le type de travail ou d'étude, nous devons faire très attention dès lors à la façon dont nous menons ce travail normatif. Et une des choses que j'ai découvert en étudiant différentes disciplines, d'autres domaines, c'est que nombre des méthodes qui sont appliquées aux sciences sociales sont très différentes si l'on regarde le côté empirique, mais elles sont très semblables si on se penche du côté normatif. C'est-à-dire qu'il y a toujours un jugement qui est porté sur les choses, quelle que soit, par exemple, que soit la théorie du libéralisme contractualiste, où on reprend le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, eh bien, dès le départ, si l'on s'attache à cela, on voit que le contrat social implique qu'effectivement, il y a un engagement social et que les gens sont traités de manière juste ou égaux ou pas. Et c'est de cela dont je parlais.
Donc, les sciences sociales sont toujours au moins partiellement normatives, selon vous, Andrew Abbott. Ce qui sous-tend cette normativité, c'est ce que vous qualifiez d'ontologie, une ontologie spécifique aux sciences sociales que vous désignez par le terme de libéralisme contractualiste. C'est ainsi que vous qualifiez l'ontologie qui, au-delà, je dirais, des différences et des conflits qui traversent les sciences sociales, qui sont loin d'être unifiées, ce qui les unit, c'est cette ontologie normative de libéralisme contractualiste. C'est une référence claire à la philosophie politique des Lumières, à un certain type de philosophie politique des Lumières. Comment expliquez-vous cette connexion, en quelque sorte, entre cette philosophie politique qui a précédé la naissance des sciences sociales et la manière dont les sciences sociales s'est arrimée sur cette ontologie-là ?
So this is not a question that, to which I have an answer existing,
pre-existing in my head. Une réponse toute construite. Je dirais que peut-être que la meilleure façon d'y répondre serait de se dire que les sciences sociales en elles-mêmes sont nées à la fin du 19e siècle et sont nées comme une réaction au 19e siècle, à l'explosion du capitalisme à cette époque et de la transformation de la société qui s'en est suivie. Mais si nous nous posons la question suivante, quel est le modèle de société qui précédait le développement du capitalisme ? Eh bien, la réponse serait, par exemple, les Lumières au XVIIIe siècle, qui posent l'idée de l'égalité entre les hommes, dans un monde juste, ils sont tous traités de la même manière. Les sciences sociales qui apparaissent à la fin du 19e siècle commencent à se poser la question pourquoi le monde ne ressemble pas à cette image ? Qu'est-ce qui a changé ? Et donc, la notion, nous allons étudier le capitalisme, nous allons étudier le travail, nous allons voir la relation entre le travail et le capitalisme, et nous voulons comprendre pourquoi et comment nous sommes arrivés là. Et c'est la façon dont moi je comprends les choses. Mais il est vrai que ceci a eu lieu parce que, de manière de comprendre ce problème et de manière consciente, eh bien, cela a été envisagé aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont une idée très précise des différents pouvoirs. Imaginez les Grandes-Bretagnes. La Grande-Bretagne, elle porte un héritage important. Ce n'est pas une constitution. Ce n'est pas une constitution qui a été rédigée au XVIIIe siècle. C'est du droit coutumier. Donc, c'est la même chose en France. La France a eu beaucoup de constitutions écrites depuis le XVIIIe siècle, alors que nous, aux États-Unis, nous avons toujours la même, l'unique constitution du XVIIIe siècle. Et c'est la façon dont nous avons pu nous poser ces questions. C'est vrai que vous pouvez avoir des scientifiques, des professionnels de sciences sociales aux États-Unis qui posent ces questions sur le monde, mais ne posent pas de la manière normative identique, par exemple, aux Européens. C'est pourquoi aux États-Unis, la vision du monde est différente avec des individus, des marchés. Ce sont des faits très, très, très clairs, très précis. Et c'est une façon de voir le monde sous un œil économique. Évidemment, les États-Unis pensent que le monde est empirique. Il y a des forces sociales qui obligent les gens à faire certaines choses. Et puis, l'individu prend des décisions au hasard sans être porté par des mouvements. Donc, ce sont des visions tout à fait différentes d'envisager, de comprendre le monde, par exemple ces forces sociales et l'économie qui porte les hommes ou l'individu à prendre des décisions. Et donc, c'est une façon de voir les choses différentes parce que nous pouvons, par exemple, dire que la situation est normative, c'est-à-dire juste ou injuste. On utilise le même vocabulaire qui vient en fait du siècle des Lumières, au final. C'est ce qui nous réunit tous et qui vient de Jean-Jacques Rousseau. Même si nous avons une façon très différente de penser, nous finissons par utiliser le même vocabulaire, les mêmes idées.
Alors, le problème que vous pointez, Andrew Abbott, est celui d'un écart de plus en plus grand entre la recherche empirique et cette ontologie normative. Mais vous pointez aussi le fait que cette ontologie normative, dans sa forme du libéralisme contractualiste, est critiquée et remise en question, plus exactement, par des transformations que connaissent les sociétés dont s'occupent les sciences sociales depuis le 19e siècle. Des transformations qui font prendre évidemment un caractère historique que trop souvent les sciences sociales négligent, parce que les phénomènes ne sont pas immuables, ils sont toujours des processus et toujours en transformation, d'une part. D'autre part, vous insistez sur le fait que la question des particularismes est très problématique, puisque les sciences sociales ont tendance à construire des idéotypes, à raisonner avec des catégories, là où il faudrait descendre dans des niveaux de finesse, compte tenu des particularités de chacun des individus qui composent les sociétés. Mais cette question du particularisme, puisqu'on a peu de temps, je voudrais qu'on la réserve à à ce libéralisme contractualiste lui-même, c'est-à-dire au dernier point que vous avez abordé dans votre conférence, à la question de savoir si, au fond, cette ontologie normative qui sous-tend les sciences sociales, elle est tenable encore aujourd'hui dans un monde globalisé dans lequel cette ontologie normative n'est pas partagée par de grandes parties, par de grands segments, par des milliards d'individus, écrivez-vous, sur la planète, qui ne partagent pas cette ontologie normative et qui ne seraient pas particulièrement ravis à l'idée de la voir réguler leur mode de vie. Et la question qui se pose dès lors aux sciences sociales, c'est celle de leur universalisation difficile, et donc évidemment celle de leur avenir, Andrew Abbott.
Well, I think there are actually three basic issues.
Il y a trois sujets, trois thèmes principaux dans ce problème de l'ontologie normative dont je parlais précédemment. Le premier est celui dont vous avez parlé, c'est le particularisme, la particularité. Et cela revient au fait de dire que si l'on lit ce qu'a écrit Jean-Jacques Rousseau ou d'autres, c'est-à-dire que toute inégalité entre individus va se retrouver dans le monde privé, non pas dans le monde public. Et il y a une théorie selon laquelle cette inégalité entre privé et public vont être réglementées ou contrôlées ou arrêtées. Et donc, il y a aussi une théorie que l'on retrouve chez Rousseau et d'autres, c'est qu'il y a différentes particularités chez l'individu. Vous n'allez pas être simplement être une femme, mais vous pouvez être une femme et une avocate. Vous pouvez être une femme, une avocate et une alpiniste. Vous pouvez être une mère et une fille. Et je peux continuer ainsi, mais chacun d'entre nous représente différentes particularités. Et la justice ou l'équité de notre situation peut être comprise par une de ces dimensions. Par exemple, on peut le comprendre au vu de mon genre, de ma race, etc. Donc c'est l'un des problèmes que l'on trouve dans l'ontologie normative. Il est difficile d'envisager l'ensemble des particularités d'un seul et même individu. Le deuxième problème, très important, est que l'ontologie normative ne tient pas du tout compte de l'histoire de la personne, de l'individu. Après tout, vous pouvez, par exemple, être très riche à un moment et très pauvre à un autre moment de votre vie. Vous pouvez, par exemple, avoir un aspect d'être en pleine santé et aller très bien, et après avoir un aspect terrible. Donc, les choses ne sont pas systématiques. Par exemple, des gens qui vont avoir un emploi tout à fait important vont passer par des moments où ils sont peut-être au chômage, où ne gagneront pas beaucoup d'argent, ou passeront des passes difficiles. Il n'y a pas de modèle dans l'ontologie normative qui permet de se lancer dans cette façon de penser et d'envisager les changements qui ont lieu au cours d'une vie. Donc, vous allez passer par de nombreux changements à travers les différentes fluctuations du marché. Donc, il est difficile de trouver donc un filtre ou un outil qui vous permettra de pouvoir envisager la vie. Et le dernier problème est celui dont vous parliez, c'est qu'il y a de nombreux gens qui ne partagent pas cette vision du monde. Si on pense, par exemple, la Chine est un monde totalement différent. Ils ont une façon d'envisager la vie qui n'a rien à voir. Donc, c'est un troisième problème.
Merci beaucoup, Andrew Abbott. Je rappelle que la conférence Marc Bloch a été filmée, qu'elle sera bientôt accessible sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc, vous pouvez les uns les autres y accéder. On mettra le lien sur la page de la Cite dans les idées sur le site de France Culture. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Anaï Morales, à la technique Jean-Frédéric, réalisation Ghislaine David. Je remercie Paloma Goulemeau pour la traduction d'Andrew Abbott. On retrouve dans quelques instants Jean Deloisy sur l'antenne de France Culture.